Denis Diderot, Rêve de d'Alembert. Interlocuteur, d'Alembert, Mademoiselle de l'Espinasse, le médecin Bordeux. Bordeux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il est malade? Mademoiselle de l'Espinasse. Oh, je le crains, il a eu la nuit la plus agitée. Est-il réveillé? Pas encore. Après s'être approché du lit de d'Alembert et lui avoir tâté le pouls et la peau. Oh, ce ne sera rien. Vous croyez? J'en réponds. Le pouls est bon, un peu faible. La peau moite, la respiration facile. N'y a-t-il rien à lui faire? Oh non, rien. Oh, tant mieux, car il déteste les remèdes. Et moi aussi. Qu'a-t-il mangé à souper? Il n'a rien voulu prendre. Je ne sais où il avait passé la soirée, mais il est revenu soucieux. Non, c'est un petit mouvement fébrile qui n'aura pas une suite. En rentrant, il a pris sa robe de chambre, son bonnet de nuit et s'est jeté dans son fauteuil où il s'est assoupi. Le sommeil est bon partout, mais il eût été mieux dans son lit. Il s'est fâché contre Antoine qui le lui disait « Oh, il a fallu tirailler une demi-heure pour le faire coucher. C'est ce qui m'arrive tous les jours, quoique je me porte bien. » Et quand il a été couché, au lieu de reposer comme à son ordinaire, car il dort comme un enfant, il s'est mis à se tourner, se retourner, à tirer ses bras, à écarter ses couvertures, et parler haut. Et qu'est-ce qu'il disait de la géométrie? Non, 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 cela avait tout l'air du délire. C'était en commençant un galimatias de cordes vibrantes et de fibres sensibles. Cela m'a paru si fou que, résolu de ne pas le quitter de la nuit et en sachant que faire, j'ai approché une petite table du pied de son lit et je me suis mis à écrire tout ce que j'ai pu attraper de ses rêvasseries. Bon tour de tête qui est bien de vous. Et peut-on voir cela? Oh, sans difficulté, mais je veux mourir si vous y comprenez quelque chose. Peut-être. Docteur, êtes-vous prêt? Oui. Écoutez. Un point vivant. Oh non, je me trompe. Rien d'abord, puis un point vivant. Et à ce point vivant, il s'en applique un autre, encore un autre. Et par ses aspirations successives, il résulte un être un. Car je suis bien un, je n'en saurais douter. En disant cela, il se tâtait partout. Mais comment cette unité s'est-elle faite? Mais mon ami, lui ai-je dit, mais qu'est-ce que cela vous fait? Dormez. Alors il s'est tu, et après un moment de silence, il a repris comme s'il s'adressait à quelqu'un. Oh, tenez, philosophe, je vois bien un agrégat, un tissu de petits êtres sensibles, mais un animal, un tout, un système un, lui ayant la conscience de son unité. Oh, je ne le vois pas, non, 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 je ne le vois pas. Docteur, y entendez-vous quelque chose? À merveille. Ah, ben vous êtes bien heureux. Ma difficulté vient peut-être d'une fausse idée. Non, est-ce vous qui parlez, là? Non, 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 c'est le rêveur. Je continue. Il a ajouté, en s'apostrophant lui-même, « Mon ami d'Alembert, prenez-y garde, vous ne supposez que de la contiguïté où il y a continuité. » Oui, il est assez malin pour me dire cela. Et la formation de cette continuité, elle ne l'embarrassera guère. Comme une goutte de mercure se fond dans une autre goutte de mercure, une molécule sensible et vivante se fond dans une molécule sensible et vivante. D'abord, il y avait deux gouttes, et après le contact, il n'y en a plus qu'une. Avant l'assimilation, il y avait deux molécules, après l'assimilation, il n'y en a plus qu'une. La sensibilité devient commune à la masse continue. M'en ai fait, mais pourquoi non? Je distinguerai par la pensée, sur la longueur de la fibre animale, tant de parties qu'il me plaira, mais la fibre sera continue, une, oui, une. Le contact de deux molécules homogènes, parfaitement homogènes, forme la continuité, et c'est le cas de l'union, de la cohésion, de la combinaison, de l'identité la plus complète qu'on puisse imaginer. Oui, philosophe, si ces molécules sont élémentaires et simples, mais si ce sont des agrégats, si ce sont des composés, la combinaison ne s'en fera pas moins, et en conséquence, l'identité, la continuité. Et puis l'action et la réaction habituelle. Bah oui, il est certain que le contact de deux molécules vivantes est tout autre chose que la contiguïté de deux masses inertes. Mais passons, passons. On pourrait peut-être vous chicaner, mais m'en soucie pas, je pilote jamais. Cependant, reprenons. Un fil d'or très pur, je m'en souviens, c'est une comparaison qu'il m'a faite. Un réseau homogène entre les molécules desquelles d'autres s'interposent et forment peut-être un autre réseau homogène, un tissu de matière sensible, un contact qui assimile de la sensibilité active, ici, inerte, là, qui se communique comme le mouvement, sans compter, comme il l'a très bien dit, qu'il doit y avoir de la différence entre le contact de deux molécules sensibles et le contact de deux molécules qui ne le seraient pas. Et cette différence, oh, mais quelle peut-elle être? Une action, une réaction habituelle? Et cette action et réaction avec un caractère particulier? Tout concourt donc à produire une sorte d'unité qui n'existe que dans l'animal. Ma foi, si c'est pas de la vérité, ça y ressemble fort. Vous riez, docteur. Est-ce que vous trouvez du sens à cela? Mais beaucoup. Ah, alors il n'est donc pas fou. Ah, nullement. Et après ce préambule, il s'est mis à crier. Mademoiselle de l'Espinasse, mademoiselle de l'Espinasse. Que voulez-vous? Avez-vous vu quelquefois un essaim d'abeilles s'échapper de leur ruche? Le monde ou la masse générale de la matière est la ruche. Les avez-vous s'en aller former à l'extrémité de la branche d'un arbre une longue rame de petits animaux ailés, tous accrochés les uns aux autres par les pattes? Bien, cette grappe est un être, un individu, un animal quelconque. Mais ces grappes devraient se rassembler toutes. Oui, s'il n'admettait qu'une seule matière homogène. Les avez-vous vus? Oui, je les ai vus. Vous les avez vus? Oui, mon ami, je vous dis que oui. Mais si l'une de ces abeilles s'avise de pincer d'une façon quelconque l'abeille à laquelle elle s'est accrochée, que croyez-vous qu'il en arrive? Dites donc. Bon, je n'en sais rien, mais dites toujours. Ah, vous l'ignorez donc. Mais le philosophe ne l'ignore pas, lui. Si vous le voyez jamais, et vous le verrez, ce que vous ne verrez pas, car il me l'a promis, il vous dira que celle-ci pincera la suivante, qu'il s'excitera dans toute la grappe autant de sensations qu'il y a de petits animaux, et que le tout s'agitera, se remuera, changera de situation et de forme, qu'il s'élèvera du bruit, de petits cris, et que celui qui n'aurait jamais vu une pareille grappe s'arranger serait tenté de la prendre pour un animal à 500 ou 600 têtes et 1000 ou 1200 ailes. Eh bien, docteur, eh bien, savez-vous que ce rêve est fort beau et que vous avez bien fait de l'écrire? Mais rêvez-vous, vous aussi? Si peu que je l'engagerai presque à vous dire la suite. Je vous en défie. Vous m'en défiez? Oui. Et si je le rencontre? Oh, si vous rencontrez, je vous promets de vous tenir pour le plus grand fou qu'il y ait au monde. Regardez sur votre papier et écoutez-moi. L'homme qui prendrait cette grappe pour un animal se tromperait. Mais, mademoiselle, je présume qu'il a continué de vous adresser la parole. Voulez-vous qu'il juge plus sainement? Voulez-vous transformer la grappe d'abeille en un seul et unique animal? Amollissez les pattes par lesquelles elles se tiennent, de contiguës qu'elles étaient, rendez-les continues. Entre ce nouvel état de la grappe et le précédent, il y a certainement une différence marquée. Et quelle peut être cette différence, sinon qu'à présent c'est un tout, un animal, un, et qu'auparavant ce n'était qu'un assemblage d'animaux. Tous nos organes, oh tous nos organes, mais oui, pour celui qui a exercé la médecine et fait quelques observations. Après? Après, oh, ce ne sont que des animaux distincts que la loi de continuité tient dans une sympathie, une unité, une identité générale. Mais j'en suis confondu. Mais c'est cela, et presque mot pour mot, qu'il a dit. Oh, mais je puis donc assurer à présent à toute la terre qu'il n'y a aucune différence entre un médecin qui veille et un philosophe qui rêve. Oh, sans doute, est-ce là tout? Oh que non, vous n'y êtes pas. Après votre radotage, ou le sien, il m'a dit « Mademoiselle, mon ami, approchez-vous encore, encore, j'aurai une chose à vous proposer. Qu'est-ce ? Tenez cette grappe, la voilà, vous la croyez bien, là, là, faisons une expérience. Quelle ? Prenez vos ciseaux, coupe-t-il bien ? À ravir. Alors approchez doucement, tout doucement, et séparez-moi ces abeilles, mais prenez garde de les diviser par la moitié du corps, coupez juste à l'endroit où elles se sont assimilées par les pattes. Ne craignez rien, vous les blesserez un peu, mais vous ne les tuerez pas. Fort bien. Oh, vous êtes adroite comme une fée. Voyez-vous comme elles s'envolent chacune de son côté? Elles s'envolent une à une, deux à deux, trois à trois. Combien il y en a? Si vous m'avez bien compris. Mais vous m'avez bien compris. Fort bien. Alors supposez maintenant, supposez. Ma foi, docteur, j'entendais si peu ce que j'écrivais. Il parlait si bas, cet endroit de mon papier est si barbouillé que je ne saurais le lire. Oh, j'y supérais, si vous voulez, si vous pouvez. Oh, rien de plus facile, mademoiselle. Supposez ces abeilles si petites que leur organisation échappa toujours aux tranchants grossiers de votre ciseau. Vous pousserez la division si loin qu'il vous plaira, sans en faire mourir aucune. Et ce tout, formé d'abeilles imperceptibles, sera un véritable polype que vous ne détruirez qu'en l'écrasant. La différence de la grappe d'abeilles continue et de la grappe d'abeilles contiguë est précisément celle des animaux ordinaires, tels que nous, les poissons et les vers, des serpents et des animaux polypeux. Encore toute cette théorie souffre-t-elle quelques modifications? Ici, mademoiselle de l'Espinasse se lève brusquement et va tirer le cordon de la sonnette. Doucement, doucement, mademoiselle, vous l'éveillerez, et il a besoin de repos. Ah oui, je n'y pensais pas, tant j'en suis étourdi. Au domestique qui entre, qui de vous a été chez le docteur? Le domestique. C'est moi, mademoiselle. Y a-t-il longtemps? Il n'y a pas une heure que j'en suis revenu. N'y avez-vous rien porté? Non, rien. Point de papier? Aucun? Voilà qui est bien allé. Je n'en reviens pas. Tenez, docteur, j'ai soupçonné quelqu'un d'eux de vous avoir communiqué mon griffonnage. Je vous assure qu'il n'en est rien. À présent que je connais votre talent, vous me serez d'un grand secours dans la société. Sa rêvasserie n'en est pas demeurée là. Tant mieux! Vous n'y voyez donc rien de fâcheux. Pas la moindre chose. Alors il a continué. Eh bien, philosophe, vous concevez donc des polypes de toute espèce, même des polypes humains? Mais la nature ne nous en offre pas. Bordeu. Ah, il n'avait pas connaissance de ces deux filles qui se tenaient par la tête, les épaules, le dos, les fesses et les cuisses, qui ont vécu ainsi accolées jusqu'à l'âge de 22 ans, et qui sont mortes à quelques minutes l'une de l'autre. Et ensuite il a dit, « Oh, des folies qui ne s'entendent qu'aux petites maisons !» Il a dit, « Cela est passé ou cela viendra, et puis qui sait l'état des choses dans les autres planètes ?»« Bon, peut-être ne faut pas aller si loin. » Il le disait, « Dans Jupiter ou dans Saturne, les polypes humains, les mâles se résolvant en mâles, les femelles en femelles, cela est plaisant. » Oh là, il s'est mis à faire des éclats de rire à m'effrayer. L'homme se résolvant en une infinité d'hommes atomiques, qu'on renferme entre des feuilles de papier comme des œufs d'insectes qui filent leur coque, qui restent un certain temps chrysalides, qui percent leur coque et qui s'échappent en papillons. Une société d'hommes formée, une province entière peuplée des débris d'un seul. Cela est tout à fait agréable à imaginer. Et les éclats de rire ont continué. Si l'homme se résout quelque part en une infinité d'hommes animalcules, on y doit avoir moins de répugnance à mourir. On y répare si facilement la perte d'un homme qu'il y doit causer peu de regrets. Bordeu. Oh, cette extravagante supposition est presque l'histoire réelle de toutes les espèces d'animaux subsistants et à venir. Si l'homme ne se résout pas en une infinité d'hommes, il se résout du moins en une infinité d'animalcules dont il est impossible de prévoir les métamorphoses et l'organisation future et dernière. Qui sait si ce n'est pas la pépinière d'une seconde génération d'êtres, séparés de celle-ci par un intervalle incompréhensible de siècles et de développements successifs. Qu'est-ce que vous marmottez là, tout bas, docteur? Oh, rien, non, je rêvais de mon côté, mademoiselle. Allez, continuez de lire. Tout bien considéré, pourtant, j'aime mieux notre façon de repeupler, a-t-il ajouté. Philosophe, vous qui savez ce qui se passe là ou ailleurs, dites-moi la dissolution de différentes parties. N'y donne-t-elle pas des hommes de différents caractères? La cervelle, le cœur, la poitrine, les pieds, les mains, les testicules. Oh, comme cela simplifie la morale. Un homme né et une femme provenue. Oh, docteur, vous me permettrez de passer ceci. Une chambre chaude, tapissée de petits cornets, et sur chacun de ces cornets, une étiquette. Guerrier, magistrat, philosophe, poète, cornet de courtisan, cornet de catin, cornet de roi. Bordeu. Oh, cela est bien gai et bien fou. Voilà ce qui s'appelle rêver, et une vision qui me ramène à quelques phénomènes assez singuliers. Alors ensuite, il s'est mis à marmotter je ne sais quoi de graines, de lambeaux de chair, mises en macération dans de l'eau, de différentes races d'animaux successifs qu'il voyait naître et passer. Il avait imité avec sa main droite le tube d'un microscope et avec sa gauche, je crois, l'orifice d'un vase. Et il regardait dans le vase par ce tube et il disait « Oh ! Voltaire en plaisantera tant qu'il voudra. Mais l'anguillard a raison. J'en crois mes yeux. Je les vois. Combien il y en a, comme ils vont, comme ils viennent, comme ils frétillent. » Le vase où il apercevait tant de générations momentanées, il le comparait à l'univers. Il voyait dans une goutte d'eau l'histoire du monde. Cette idée lui paraissait grande. Il la trouvait tout à fait conforme à la bonne philosophie qui étudie les grands corps dans les petits. Et il disait: dans la goutte d'eau de Needham, tout s'exécute et se passe en un clin d'œil. Dans le monde, le même phénomène dure un peu davantage. Mais qu'est-ce que notre durée en comparaison de l'éternité des temps? Moins que la goutte que j'ai prise avec la pointe d'une aiguille, en comparaison de l'espace illimité qui m'environne. Suite indéfinie d'animalcules dans l'atome qui fermente, même suite indéfinie d'animalcules dans l'autre atome qu'on appelle la Terre. Qui sait les races d'animaux qui nous ont précédés? Qui sait les races d'animaux qui succéderont aux nôtres? Tout change, tout passe. Il n'y a que le tout qui reste. Le monde commence et finit sans cesse. Il est à chaque instant à son commencement et à sa fin. Il n'en a jamais eu d'autre et n'en aura jamais d'autre. Dans cet immense océan de matière, pas une molécule qui ressemble à une molécule, pas une molécule qui ressemble à elle-même un instant. Rerum novus nascitur ordo. Voilà son inscription éternelle. Puis il ajoutait en soupirant: vanité de mes pensées, oh, pauvreté de la gloire de nos travaux, oh, misère, oh, petitesse de nos vues, il n'y a rien de solide que de boire, manger, vivre, aimer et dormir. Mademoiselle de Lespinasse, où êtes-vous? Me voilà. Alors son visage s'est coloré. J'ai voulu lui tâter le pouls, mais je ne sais où il avait caché sa main. Il paraissait éprouver une convulsion. Sa bouche s'était entrouverte, son haleine était pressée. Il a poussé un profond soupir, et puis un soupir plus faible et plus profond encore. Il a retourné sa tête sur son oreiller et s'est endormi. Je le regardais avec attention et j'étais tout ému, sans savoir pourquoi. Le cœur me battait et ce n'était pas de peur. Et au bout de quelques moments, j'ai vu un léger sourire errer sur ses lèvres. Il disait tout bas: « Dans une planète où les hommes se multiplieraient à la manière des poissons, où le frais d'un homme pressé sur le frais d'une femme... mais j'y aurais moins de regrets, mais il faut rien perdre de ce qui peut avoir son utilité. Mademoiselle, si cela pouvait se recueillir, être enfermé dans un flacon et envoyé de grand matin à Needham. Docteur, vous n'appelez pas cela de la déraison? Auprès de vous, assurément. Auprès de moi, loin de moi, c'est tout un. Vous ne savez pas ce que vous dites. J'avais espéré que le reste de la nuit serait tranquille. Cela produit ordinairement cet effet, mais point du tout. Sur les 2 heures du matin, il en est revenu à sa goutte d'eau, qu'il appelait un microcosme. Oui, c'est son mot. Il admirait la sagacité des anciens philosophes. Il disait ou faisait dire à son philosophe, je ne sais lequel des deux: si lorsqu'Épicure assurait que la terre contenait les germes de tout, et que l'espèce animale était le produit de la fermentation. Il avait proposé de montrer une image en petit de ce qui s'était fait en grand à l'origine des temps. Que lui aurait-on répondu? Et vous l'avez sous vos yeux, cette image? Et elle ne vous apprend rien? Qui sait si la fermentation et ses produits sont épuisés? Qui sait à quel instant de la succession de ces générations animales nous en sommes? Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a que 4 pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à en perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe? Qui sait s'il n'en est pas ainsi de toutes les espèces d'animaux? Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand sédiment inerte et immobile? Qui sait quelle sera la durée de cette inertie? Qui sait quelle race nouvelle peut résulter de rechef d'un amas aussi grand de points sensibles et vivants? Pourquoi pas un seul animal? Qu'était l'éléphant dans son origine? Peut-être l'animal énorme tel qu'il nous paraît, peut-être un atome, car tous les deux sont également possibles. Il ne suppose que le mouvement et les propriétés diverses de la matière. L'éléphant, cette masse énorme organisée, le produit subi de la fermentation, pourquoi non? Le rapport de ce grand quadrupède à sa matrice première est moindre que celui du vermisseau à la molécule de farine qui la produit. Mais le vermisseau n'est qu'un vermisseau. C'est-à-dire que la petitesse qui vous dérobe son organisation lui ôte son merveilleux. Le prodige, c'est la vie, c'est la sensibilité. Et ce prodige n'en est plus un. Lorsque j'ai vu la matière inerte passer à l'état sensible, rien ne doit plus m'étonner. Quelle comparaison d'un petit nombre d'éléments mis en fermentation dans le creux de ma main, et de ce réservoir immense d'éléments divers épars dans les entrailles de la terre, à sa surface, au sein des mers, dans le vague désert. Cependant, puisque les mêmes causes subsistent, pourquoi les effets ont-ils cessé? Pourquoi ne voyons plus le taureau percer la terre de sa corne, appuyer ses pieds contre le sol et faire effort pour en dégager son corps pesant? Laissez passer la race présente des animaux subsistants. Laissez agir le grand sédiment inerte quelques millions de siècles. Peut-être faut-il, pour renouveler les espèces, 10 fois plus de temps qu'il n'en est accordé à leur durée. Attendez, et ne vous hâtez pas de prononcer sur le grand travail de nature. Vous avez 2 grands phénomènes. Le passage de l'état d'inertie à l'état de sensibilité et les générations spontanées. Qu'il vous suffise, tirez-en de justes conséquences, et dans un ordre de choses où il n'y a ni grand, ni petit, ni durable, ni passager absolu, garantissez-vous du sophisme de l'éphémère. Docteur, qu'est-ce que c'est que le sophisme de l'éphémère ? C'est celui d'un être passager qui croit à l'immortalité des choses. La rose de Fontenelle qui disait que de mémoire de rose on avait vu mourir un jardinier. Oui, précisément, cela est léger et profond. Et pourquoi vos philosophes ne s'expriment-ils pas avec la grâce de celui-ci ? Nous les entendrions ? Franchement, je ne sais si ce ton frivole convient au sujet grave. Et qu'appelez-vous un sujet grave? Mais la sensibilité générale, la formation de l'être sentant, son unité, l'origine des animaux, leur durée, et toutes les questions auxquelles cela tient. Moi, j'appelle cela des folies auxquelles je permets de rêver quand on dort, mais dont un homme de bon sens qui veille ne s'occupera jamais. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? C'est que les unes sont si claires qu'il est inutile d'en chercher la raison, et d'autres si obscures qu'on y voit goutte, et toutes de la plus parfaite inutilité. Croyez-vous, mademoiselle, qu'il soit indifférent de nier ou d'admettre une intelligence suprême? Non. Croyez-vous qu'on puisse prendre parti sur l'intelligence suprême sans savoir à quoi s'en tenir sur l'éternité de la matière et ses propriétés, la distinction des 2 substances, la nature de l'homme et la production des animaux? Non. Ces questions ne sont donc pas aussi oiseuses que vous les disiez. Oui, mais que me fait à moi leur importance si je ne saurais les éclaircir? Et comment le saurez-vous si vous ne les examinez point? Mais pourrais-je vous demander celles que vous trouvez si claires que l'examen vous en paraît superflu? Celles de mon unité, de mon moi, par exemple? Pardi, il me semble qu'il ne faut pas tant verbiager pour savoir que je suis moi, que j'ai toujours été moi et que je ne serai jamais une autre. Sans doute, le fait est clair, mais la raison du fait ne l'est aucunement, surtout dans l'hypothèse de ceux qui n'admettent qu'une substance et qui expliquent la formation de l'homme ou de l'animal en général par l'apposition successive de plusieurs molécules sensibles. Chaque molécule sensible avait son moi avant l'application. Mais comment l'a-t-elle perdue? Et comment de toutes ces pertes en est-il résulté la conscience d'un tout? Il me semble que le contact seul suffit. Voici une expérience que j'ai faite 100 fois, mais attendez, il faut que j'aille voir ce qui se passe entre ces rideaux. Il dort. Lorsque je pose ma main sur ma cuisse, je sens bien d'abord que ma main n'est pas ma cuisse. Mais quelque temps après, lorsque la chaleur est égale dans l'une et l'autre, je ne les distingue plus. Les limites des deux parties se confondent et n'en font plus qu'une. Oui, mais jusqu'à ce qu'on vous pique l'une ou l'autre, ah, alors la distinction revient. Il y a donc en vous quelque chose qui n'ignore pas si c'est votre main ou votre cuisse qu'on a piqué. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas votre pied, ce n'est pas même votre main piquée. C'est elle qui souffre, mais c'est autre chose qui le sait et qui ne souffre pas. Je crois que c'est ma tête. Toute votre tête? Non, non, attendez, docteur, je vais m'expliquer par une comparaison. Les comparaisons sont presque toute la raison des femmes et des poètes. Imaginez une araignée. Qui est-ce qui est là? Est-ce vous, mademoiselle de l'Espinasse? Paix, paix. Mademoiselle de l'Espinasse et le docteur gardent le silence. Pendant quelque temps, ensuite Mademoiselle de l'Espinasse dit à voix basse. Bah, je le crois rendormi. Non, oh non, il me semble que j'entends quelque chose. Ah oui, vous avez raison. Est-ce qu'il reprendrait son rêve? Écoutons. D'Alembert. Pourquoi suis-je telle? C'est qu'il a fallu que je fusse telle. Ici, oui, mais ailleurs. Au pôle, mais sous la ligne, mais dans Saturne. Si une distance de quelques 1000 lieues change mon espèce, que ne fera point d'intervalle de quelques milliers de diamètres terrestres? Et si tout est un flux général, comme le spectacle de l'univers me le montre partout, que ne produire point ici et d'ailleurs la durée des vicissitudes de quelques millions de siècles? Qui sait ce qu'est l'être pensant et sentant en Saturne? Mais y a-t-il en Saturne du sentiment de la pensée? Oh, pourquoi non? L'être sentant et pensant de Saturne aurait-il plus de sens que je n'en ai? Si cela est, ah, qu'il est malheureux le Saturnien! Plus de sens, plus de besoin! Bordeux. Il a raison. Les organes produisent les besoins et réciproquement les besoins produisent les organes. Docteur, délirez-vous vous aussi? Pourquoi non? J'ai vu 2 moignons devenir à la longue 2 bras. Vous mentez. Oui, il est vrai, mais au défaut de 2 bras qui manquaient, j'ai vu 2 omoplates s'allonger. Se mouvoir en pince et devenir 2 moignons. Quelle folie! Non, c'est un fait. Supposez une longue suite de générations manchottes. Supposez des efforts continus, et vous verrez les 2 côtés de cette pincette s'étendre de plus en plus, se croiser sur le dos, revenir par devant, peut-être se digiter à leurs extrémités, et refaire les bras et les mains. La conformation originelle s'altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles. Nous marchons si peu, nous travaillons si peu, et nous pensons tant, que je ne désespère pas que l'homme ne finisse par n'être qu'une tête. Une tête, c'est bien peu de chose. J'espère que la galanterie effrénée... Oh. Vous me faites venir des idées bien ridicules. Non, paix. D'Alembert. Je suis donc tel parce qu'il a fallu que je fusse tel. Changez le tout, vous me changez nécessairement. Mais le tout change sans cesse. L'homme n'est qu'un effet commun, le monstre qu'un effet rare. Tous les deux également naturels, également nécessaires, également dans l'ordre universel et général. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant, cela? Tous les êtres circulent les uns dans les autres. Par conséquent, toutes les espèces, tout est en flux perpétuel. Tout animal est plus ou moins homme, tout minéral est plus ou moins plante, toute plante est plus ou moins animale. Il n'y a rien de précis en nature. Le ruban du Père Castel. Ah oui, Père Castel, c'est votre ruban et ce n'est que cela. Toute chose est plus ou moins une chose quelconque, plus ou moins terre, plus ou moins eau, plus ou moins air, plus ou moins feu, plus ou moins d'un règne ou d'un autre. Donc rien n'est de l'essence d'un être particulier. Non, sans doute, puisqu'il n'y a aucune qualité dans aucun être ne soit participant, et que c'est le rapport plus ou moins grand de cette qualité qui nous l'a fait attribuer à un être exclusivement, à un autre. Et vous parlez d'individus, pauvre philosophe. Laissez-là vos individus. Répondez-moi. Y a-t-il un atome en nature rigoureusement semblable à un autre atome? Non. Ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu'il est impossible qu'il y ait un vide dans la chaîne? Mais que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n'y en a point, non, non, il n'y en a point. Il n'y a qu'un seul grand individu, c'est le tout. Et dans ce tout, comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle. Mais quand vous donnerez le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un concept aussi faux que si dans un oiseau vous donniez le nom d'individu à l'aile, à une plume de l'aile. Et vous parlez d'essence, pauvre philosophe. Mais laissez là vos essences. Voyez la masse générale, ou si, pour l'embrasser, vous avez l'imagination trop étroite, voyez votre première origine et votre fin dernière. Oh, Architas, vous qui avez mesuré le globe, qu'êtes-vous? Un peu de cendre. Qu'est-ce qu'un être? La somme d'un certain nombre de tendances. Est-ce que je puis être autre chose qu'une tendance? Non, je vais à un terme. Et les espèces? Oh, les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur est propre. Et la vie? La vie, bon, une suite d'actions et de réactions. Vivant, j'agis et je réagis en masse. Mort, j'agis et je réagis en molécules. Je ne meurs donc point? Non, sans doute. Je ne meurs point en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit. Naître, vivre et passer, c'est changer de forme. Et qu'importe une forme ou une autre, chaque forme a le bonheur et le malheur qui lui est propre. Depuis l'éléphant jusqu'au puceron, depuis le puceron jusqu'à la molécule sensible et vivante, l'origine de tout, pas un point dans la nature entière qui ne souffre ou qui ne jouisse. Tiens, il ne dit plus rien. Non, non, dit Bordeu, mais il a fait d'une assez belle excursion. Voilà de la philosophie bien haute, systématique dans ce moment. Je crois que plus les connaissances de l'homme feront des progrès, plus elle se vérifiera. Et nous, où en étions-nous? Oh, ma foi, je ne m'en souviens plus. Il m'a rappelé tant de phénomènes tandis que je l'écoutais. Attendez, attendez. Ah, j'en étais à mon araignée. Ah oui. Ben, docteur, approchez-vous. Imaginez une araignée au centre de sa toile. Ébranlez un fil et vous verrez l'animal alerte à courir. Eh bien, si les fils que l'insecte tire de ses intestins et il rappelle quand il lui plaît, faisait partie sensible de lui-même. Ah oui, je vous entends. Vous imaginez en vous, quelque part, dans un recoin de votre tête, celui par exemple qu'on appelle les méninges, un ou plusieurs points où se rapportent toutes les sensations excitées sur la longueur des fils. Oui, c'est cela. Votre idée, on ne serait plus juste, mais ne croyez-vous pas que c'est à peu près la même qu'une certaine grappe d'abeilles? Ah oui, cela est vrai. J'ai fait de la prose sans m'en douter. Et de la très bonne prose. Comme vous allez le voir, celui qui ne connaît l'homme que sous la forme qu'il nous présente en naissant n'en a pas la moindre idée. Sa tête, ses pieds, ses mains, tous ses membres, tous ses viscères, tous ses organes, son nez, ses yeux, ses oreilles, son cœur, ses poumons, ses intestins, ses muscles, ses os, ses nerfs, ses membranes, ne sont à proprement parler que les développements grossiers d'un réseau qui se forme, s'accroît, s'étend, jette une multitude de fils imperceptibles. Oui, voilà ma toile, et le point originaire de tous ces fils, c'est mon araignée. À merveille! Mais où sont les fils? Où est placée l'araignée? Mais les fils sont partout. Il n'y a pas un point à la surface de votre corps auquel ils n'aboutissent. Et l'araignée est nichée dans une partie de votre tête que je vous ai nommée les méninges, à laquelle on ne serait presque touché sans frapper de torpeur toute la machine. Mais si un atome fait osciller un des fils de la toile de l'araignée, alors elle prend l'alarme, elle s'inquiète, elle fuit où elle accourt. Au centre, elle est instruite de tout ce qui se passe, en quelque endroit que ce soit, de l'appartement immense qu'elle a tapissé. Et pourquoi est-ce que je ne sais pas ce qui se passe dans le mien, ou le monde, puisque je suis un peloton de points sensibles, que tout presse sur moi et que je presse sur tout? C'est que les impressions s'affaiblissent en raison de la distance d'où elles partent. Si on frappe du coup le plus léger à l'extrémité d'une longue poutre, j'entends ce coup, si j'ai mon oreille placée à l'autre extrémité. Cette poutre toucherait d'un bout sur la terre et de l'autre bout dans Sirius, que le même effet serait produit. Et pourquoi, tout étant lié, contigu, c'est-à-dire la poutre existante et réelle, n'entends-je pas ce qui se passe dans l'espace immense qui m'environne, surtout si j'y prête l'oreille? Et qui est-ce qui vous a dit que vous ne l'entendiez pas plus ou moins? Il y a si loin, l'impression est si faible, si croisée sur la route. Vous êtes entouré et assourdi de bruits si violents et si divers. C'est qu'entre Saturne et vous, il n'y a que des corps contigus, au lieu qu'il... Il faudrait de la continuité. C'est bien dommage. C'est vrai, car vous seriez Dieu. Par votre identité avec les êtres de la nature, vous seriez tout ce qui se fait. Et par votre mémoire, vous seriez tout ce qui s'y est fait. Et ce qui s'y fera? Oui, vous formeriez sur l'avenir des conjectures vraisemblables, mais sujettes à erreur. C'est précisément comme si vous cherchiez à deviner ce qui va se passer au-dedans de vous, à l'extrémité de votre pied ou de votre main. Et qui est-ce qui vous a dit que ce monde n'avait pas aussi ses méninges, ou qui ne réside pas dans quelque recoin de l'espace, une grosse ou petite araignée dont les fils s'étendent à tout? Personne, moins encore si elle n'a pas été ou si elle ne sera pas. Mais comment cette espèce de Dieu-là? Mais la seule qui se conçoit pourrait avoir été ou venir et passer. Sans doute, mais puisqu'il serait matière dans l'univers, portion de l'univers, sujet à vicissitudes, il vieillirait, il mourrait. Mais voici bien une autre extravagance qui me vient. Oh, je vous dispense de la dire, je la sais. Voyons, quelle est-elle? Vous voyez l'intelligence unie à des portions de matière très énergiques et la possibilité de toutes sortes de prodiges imaginables, mais d'autres l'ont pensé comme vous. Vous m'avez deviné, mais je ne vous en estime pas davantage. Il faut que vous ayez un merveilleux penchant à la folie. D'accord, mais que cette idée a-t-elle d'effrayant? Ce serait une épidémie de bon et de mauvais génie. Les lois les plus constantes de la nature seraient interrompues par des agents naturels. Notre physique générale en deviendrait plus difficile, mais il n'y aurait point de miracle. Mais en vérité, il faut être bien circonspect sur ce qu'on assure et sur ce qu'on nie. Allez, celui qui vous raconterait un phénomène de ce genre aurait l'air d'un grand menteur. Mais laissons là tous ces êtres imaginaires sans en excepter votre araignée à réseaux infinis. Revenons au vôtre et à sa formation. J'y consens. D'Alembert. Mademoiselle, vous êtes avec quelqu'un? Qui est-ce qui cause là avec vous? C'est le docteur. Bonjour, docteur. Que faites-vous ici, si matin? Vous le saurez, dormez. Ma foi, j'en ai besoin. Je ne crois pas avoir passé une nuit aussi agitée que celle-ci. Je ne vous en dirai pas que je me sois levé.